Radio, cité Genève.
Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherova, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch.
J'allais découvrir surtout la formidable impulsion que donne à la rêverie et à la déambulation philosophique les soins prodigués journellement à un chien. Quel drôle d'objet ! Se récrieront certains esprits férus de nobles causes ou d'abstractions solennelles. Bah, répondrai-je, comme Flaubert dans sa correspondance à un ami de jeunesse, tout objet est intéressant pourvu qu'on le regarde assez longtemps. De toute façon, Totor n'est pas un objet. Citation en page 21 du tout nouvel ouvrage qui s'appelle « Soi-même comme un chien » de Nicolas Tavallion, édition La Veilleuse, une toute nouvelle maison d'édition lausannoise absolument géniale qui promeut des textes justement aussi insolites que « Soi-même comme un chien ». On a le plaisir au Radio Littéractif à Radio Cité Genève de pouvoir échanger avec son auteur. Bonjour Nicolas Tavallion.
Bonjour Sita.
Alors, cet ouvrage est tout à fait salutaire parce qu'il lève le voile sur quelque chose où parfois d'ailleurs les humains sourient d'un air bonnet, bonnoite, si on pourrait dire ça comme ça, sur le lien entre l'homme et son animal domestique, en l'occurrence ici un chien, qui est intimement lié avec votre vie personnelle. Donc il y a des aspects de vie personnelle, mais il y a surtout, on va dire que ça a été un formidable moteur de réflexion philosophique sur le rapport de l'homme avec l'animal domestique. Je souligne animal domestique parce qu'il y a énormément de philosophes qui se sont penchés sur le rapport homme-animal en général, mais avec l'animal domestique c'est une autre paire de manches et c'est le défi que vous avez relevé. Citons juste que Totor est donc un chien tout à fait spécial. Ce Totor est rentré dans votre vie en 2020 suite à des injonctions, on va le dire comme ça, de vos filles qui voulaient un chien. C'était la période du confinement notamment. Et voilà qu'il arrive dans votre vie familiale et la vôtre. Et vous avez d'abord commencé par des dog stories sur Internet. Alors peut-être le début de cette affaire de dog stories. Comment ça se fait ça ?
Alors, c'était l'époque du Covid, effectivement, et tout le monde était en train de devenir un petit peu fou sur les réseaux sociaux. Il y avait des tentatives de délation, des insultes, des malédictions croisées entre pro-vax et anti-vax. Enfin bon, j'ai eu la tête qui tourne et j'ai décidé d'arrêter de participer à ces discussions et de ne plus jamais parler que de mon chien sur les réseaux sociaux en me disant que ça me ferait une règle comme ça de concrétude pour éviter de m'en laisser embarquer dans des polémiques futiles.
Bien, futile, la polémique ne l'est pas dans votre ouvrage, je le dis tout de suite à notre cher public. À commencer, premier volet de votre ouvrage, parce que moi c'est évidemment l'aspect philosophique qui m'intéresse hautement, vous dénoncez une idée, une sorte de concept qui a la dent dure, on pourrait le dire, la sauvagerie animale de l'animal sauvage, comme s'il y avait une opposition animal sauvage, animal domestique complètement dichotomique. Et pour dénoncer cet état de fait ou ce constat ou cette rumeur, je ne sais comment le dire, vous vous attaquez aux ouvrages de Sylvain Tesson. On peut dire carrément en déconstruisant sa manière d'aborder l'animal sauvage comme étant peut-être l'espèce naturelle par excellence qu'il faudrait retrouver comme une sorte de bonheur perdu naturel. On est presque dans des accents rousseauistes et que ceci pour vous n'a pas lieu d'être parce que peut-être que vous avez envie de restituer des titres de noblesse à l'animal domestique lui-même.
Exactement. Il y a dans les réflexions sur les animaux, comme vous l'avez très bien dit dans votre petite introduction, un accent qui est mis en général quand on s'intéresse aux animaux non humains sur les bêtes sauvages. Comme si elles représentaient un état de la nature intact qui dégénère au contact de l'être humain. Et qu'il fallait retrouver si on était préoccupé par l'environnement, par la coupure de nos vies quotidiennes avec le monde environnant, etc. La sauvagerie serait le lieu où aller retrouver la nature. Je pense que la nature et les animaux sont partout. Les animaux domestiques sont le premier exemple qui me vient en tête. Mais on pourrait penser aussi à ce que les philosophes appellent les animaux liminaires, les animaux de la frontière qui ne sont pas domestiques, mais qui ne sont pas entièrement sauvages non plus. Et on les connaît tous très bien, c'est les pigeons, les rats, les moineaux, les furets qui traînent dans nos villes. Donc voilà, je voulais effectivement rediriger le regard sur des compagnons proximaux, les animaux de proximité, comme le chien, le chat et 100 millions d'amis. Et c'est pour ça qu'en essayant de comprendre comment on pouvait ou on devait parler des animaux, j'ai lu Sylvain Tesson et je n'ai pas été convaincu par ce que j'ai découvert.
D'ailleurs, on pourrait dire que pendant le confinement, il y a eu un doux mélange entre ces animaux liminaires que vous venez de citer, comme le pigeon qu'on croise dans toutes les villes cosmopolites du monde, et les animaux sauvages qui devenaient presque des animaux liminaires. Il y a eu des frontières et des barrières qui sont tombées pendant le confinement. On croisait des animaux insolites comme le renard ou le sanglier sur la plaine de Plainpalais ou ailleurs.
Oui, c'est le reflux de l'activité humaine a assoupli la frontière, on a envie de dire, et du coup, de plus en plus d'animaux sauvages, entre guillemets, se sont rapprochés de nos habitations pour fouiller nos poubelles, par exemple. Il y a eu je me rappelle de très belles images en Australie, dans les canaux de Venise, où on revoyait des dauphins, puisque l'activité humaine avait cessé. Donc ils sont là, ils sont bien là. Il n'y a pas besoin de faire de très longs voyages, très coûteux, potentiellement dangereux, pour regarder l'animal dans les yeux. Ils sont là tout autour de nous.
Et alors, le deuxième grand axe de votre ouvrage, c'est d'essayer de définir ce lien si particulier entre l'être humain et l'animal domestique. Peu de choses ont été écrites sur cette qualité de lien, parce que c'est quand même un sentiment d'amour, il faut le dire comme ça, c'est de l'amour, mais lequel ? Parce qu'une fois qu'on parle de son amour pour sa femme ou son enfant, et vous revenez là-dessus d'ailleurs au sein de votre propre famille, comment différencier ce lien d'amour avec l'animal domestique ? Est-ce qu'en termes qualitatifs il est moindre, ou alors il est sur un autre plan ? Donc vous cheminez dans votre ouvrage sur cette quête de définition de ce lien très particulier, et ça vous permet par exemple de revisiter la philosophie politique à travers le parc à chiens. Alors ça, c'est tout à fait bienvenu. Je vous cite en page 100. Prenez l'état de droit et l'idée que le pouvoir politique doit être limité par le respect d'un certain nombre de droits individuels. Ces idées-là sont très floues par les temps qui courent. Chaque jour, on justifie certaines restrictions de liberté au nom de leur utilité sociale dans la lutte contre tel ou tel danger. Pour beaucoup d'intervenants dans les débats publics, il semble acquis que si une mesure X promet un gain d'utilité sociale, il est légitime pour l'État de la mettre en œuvre. Vous poursuivez sur cette logique pour finalement dire que quelque part, les chiens dans le parc à chiens, eux, ont très bien compris les limites de la liberté individuelle qui fait fonctionner un groupe. Alors, c'est un comparatif osé, mais pourquoi pas ?
Mais pourquoi pas ? Les chiens comprennent très bien les règles limites, ne pas s'écarter trop de l'herbe pour aller sur la route, renifler les amis chiens qu'ils croisent, mais ne pas les attaquer, par exemple. Il y a un certain nombre de ce que les philosophes en anglais appellent des side constraints, des barrières de sécurité, que les chiens comprennent très bien. Et ils ont compris les limites du parc à chiens, mieux, me semble-t-il, que les humains n'ont compris les limites de l'état de droit et la manière dont un certain nombre de barrières de sécurité, qui sont les droits et les libertés classiques, sont là pour encadrer notre liberté dans un espace de libre course, comme le parc pour le chien.
Vous continuez à tisser ces comparatifs osés, mais finalement totalement pertinents, entre les animaux, je le dis, domestique, domestiqué ou domestifié, peu importe, et l'être humain, notamment avec la notion d'individu. Et pour cela, vous vous appuyez sur Barbara Smuts, qui est donc une scientifique qui a vécu avec des babouins et qui s'est rendu compte qu'on ne peut pas comme ça duper les babouins en faisant semblant de faire le mort par terre, par exemple, parce qu'ils se rendent parfaitement compte qu'on simule et qu'on fait le mort et qu'ils sont en demande d'une interaction. Alors, c'est un plan, évidemment, qu'on n'a pas l'habitude d'explorer, parce que c'est une interaction qui va mettre en scène, elle le dit elle-même, individu babouin avec individu humain, ce qui lui permet de conclure dans son étude qu'il existe des individus chez les animaux. Ça, c'est peut-être une notion qui est peu creusée en philosophie, l'individu en tant qu'animal non humain.
Oui, on réfléchit souvent, quand on pense aux animaux, en termes d'espèces. Comment se comporter avec les chats, comment se comporter avec les chiens. Et si on applique en s'imaginant que ça va nous donner tous les éléments nécessaires pour savoir comment se comporter avec mon chien ou votre chat ou le perroquet de la famille, Et si on applique le même raisonnement à l'être humain, on voit bien que ce n'est pas entièrement satisfaisant. Il y a des considérations très générales sur comment on doit traiter les êtres humains qui tiennent à la nature de la vie humaine. On tient à vivre aussi longtemps que possible et donc on revendique un droit à la vie et à la protection contre les agressions. On a envie d'avoir des relations sociales, on revendique le droit à la liberté d'association, le droit de fonder une famille, le droit de choisir ses amis, etc. Donc il y a des considérations générales qui, si on en croit la philosophie des droits humains, tiennent à notre nature humaine, à notre appartenance à l'espèce humaine. Mais en revanche, ces considérations générales sont généralement inutiles pour que je sache si je dois dire la vérité à Justine au sujet du comportement de Jean-Marc, que je détermine si je dois, je sais pas, annuler un rendez-vous professionnel pour me porter à l'aide d'un ami en détresse. Pour avoir répondre à ces questions-là, il faut des détails beaucoup plus concrets, voire des détails extrêmement individuels sur l'ami en question qui a besoin d'aide, et il n'a peut-être pas le choix, il a besoin d'aide maintenant. Mais ça, on ne peut pas le déterminer sur la base de la nature humaine en général, mais juste sur la base des détails biographiques de cet individu particulier. Pourquoi on ne doit pas réfléchir aux animaux de la même manière? Pourquoi je dois imaginer que pour savoir comment bien me comporter avec Totor, il me suffit de réfléchir à la nature canine en général et pas aux besoins et aux détails biographiques particuliers de cet individu concret-là? Donc il n'y a pas de raison. Comme bien souvent, quand on réfléchit de manière éthique à nos rapports avec les animaux, il y a des simplifications qu'on se permet avec les animaux qu'on ne se permettrait pas avec les êtres humains. Comme le fait que seule leur espèce, leur apparence générale compte, ou que seul leur bien-être physique compte, alors qu'ils ont des besoins et des facultés infiniment plus variés. Comme le dit Barbara Smuts, qui est une de mes grandes découvertes pendant que je préparais ce livre. J'adore cette biologiste qui a vécu avec des babouins et qui a commencé à appliquer la méthode scientifique qu'elle avait apprise à l'université, c'est-à-dire la neutralité de l'observateur. Rester à distance et surtout interférer le moins possible en tant qu'humain avec la vie des animaux qu'on observe. Et elle s'est rendue compte que cette stratégie ne fonctionnait pas parce qu'elle s'était placée face à son gang de babouins en essayant de rester aussi immobile qu'un caillou. Mais les babouins sont pas cons et ils ont remarqué qu'il y avait un être vivant qui leur ressemble pas mal, qui squattait leurs alentours de manière un peu interlope, sans rien dire, sans interagir, et qui était donc un objet de naturel de méfiance. Elle a réussi à construire une relation en abandonnant couche par couche cette posture de neutralité de l'observateur et à vivre des expériences, si on croit ce qu'elle raconte, assez fortes avec son gang de babouins ou qu'elle suivait toute la journée. Elle raconte même un moment que quand les babouins voyaient une proie, elle se surprise elle-même à saliver d'appétit en se disant « chouette, il va y avoir à manger » alors qu'elle ne partageait pas leur repas. Mais par osmose et solidarité, on a envie de dire, acquise, elle salivait comme les babouins eux-mêmes. Donc oui, je pense que et c'est une des choses que moi j'ai découvertes au fil de ces réflexions sur mon chien, c'est que il y a un certain nombre de réflexes simplificateurs qu'on a quand on réfléchit aux animaux dont il faudrait probablement se débarrasser. Comme de penser aux animaux en général, ça veut au fond rien dire, entre un chien, un moineau et un serpent, il y a assez peu de points communs. Donc pourquoi est-ce que on devrait réfléchir comme ça dans l'abstrait aux animaux? On ne comprend pas. Pourquoi on devrait jamais les considérer comme des individus alors qu'ils sont capables, quand on a la chance de pouvoir développer une relation d'amitié, ils sont capables d'amitié et d'interaction très forte. Donc, en effet, vous avez raison, c'est la réintroduction de la dimension des individuels dans notre regard sur les animaux me semblait importante. Et quand on a une relation proche avec un animal particulier, comme avec un chien, un chat ou un perroquet, on a une expérience en or, j'ai envie de dire. Le réel nous offre une expérience philosophique de premier ordre que je n'ai pas réussi à dédaigner.
D'ailleurs, c'est un terreau fertile. Vous poussez ensuite vos réflexions sur le terrain du droit. du droit des animaux. Ont-ils des droits ou pas, et spécifiquement avec votre animal domestique? Vous appuyez sur Kim Lika et Donaldson notamment pour peut-être faire des liens non dits sur le patient moral. C'est comme ça qu'en tout cas en philosophie morale, on parle des êtres vivants non humains qui pourraient bénéficier de droits, mais aussi les êtres humains limites, comme par exemple les handicapés mentaux ou le nourrisson. On doit leur attribuer des droits, ça semble évident, mais ils ne sont pas actifs en tant qu'agent moral, conscient, adulte, complètement dans l'efficience, puisqu'ils ne sont pas encore matures ou alors immatures à cause de pathologies. Mais l'animal, l'individu animal, il n'est pas forcément malade en pathologie ou immature. Donc quelque part, la notion de patient moral philosophique ne suffit plus pour l'espèce animale individuellement.
Mais tout à fait, merci pour cette remarque. C'est un de mes points de désaccord peut-être avec une grande école de réflexion sur l'éthique animale qu'on appelle l'antispécisme, qui considère qu'il est injuste de réserver un traitement spécial à un individu sur la base de ses caractéristiques biologiques. Les caractéristiques biologiques peuvent être la race, le sexe ou l'appartenance d'espèce animale. Et ils ont conclu donc qu'on n'a aucune raison de réserver un traitement spécial aux animaux, donc plus cruel, plus brutal, plus propriétariste, que sur la base du simple fait qu'ils ont un écart biologique avec nous, savoir une différence d'espèce. Le problème de cette théorie, c'est que elle se limite généralement à considérer les animaux comme des patients, comme des réservoirs de bonheur et de peine que nous, humains, devons veiller à équilibrer de manière héritée de Bentham. Or, et c'est ce que la biologiste dont on parlait, Barbara Smuts, ce que des philosophes comme Will Kim Lika et sa comparse Sue Donaldson soutiennent, c'est aussi ce que soutient Martha Nussbaum, grande philosophe aristotélicienne, dans son dernier livre de 2022 sur la justice pour les animaux. Les animaux ne sont pas que des patients moraux, que des réservoirs de plaisir et de peine. Ils ont une variété d'intérêts qui se traduisent dans des possibilités d'action diverses et qu'il faut toutes protéger également. Parmi ces intérêts, les animaux, comme les êtres humains, soutiennent Nussbaum ou Will Kim Lika et Donaldson ou encore Barbara Smuts, ont des intérêts activistes, actifs. Ils ont envie de courir après les papillons dans les champs, ils ont envie d'aller renifler les arbres pour repérer lesquels de leurs potes, je pense à mon chien, sont passés par là juste avant. Ils ont envie de courir après les oiseaux, ils ont envie d'explorer le monde. Ils n'ont pas juste envie, passivement, qu'on leur déverse des bonnes expériences, enfin, et des expériences de satisfaction. Ils n'ont pas juste envie d'avoir le ventre bien plein et de rester passif. Ils ont envie de contact aussi. Il suffit. Alors là, l'expérience que j'ai pu faire avec mon chien est très éclairante. C'est frappant comme ces animaux communiquent. Donc ils ont des intérêts interactifs. Ils ont besoin de contacts sociaux. Donc voilà, la palette des besoins moralement pertinents qu'ont les animaux ou certains animaux est beaucoup plus large que la simple balance des plaisirs sur les peines. Et elle n'est pas forcément plus faible, moins impressionnante que les facultés des êtres humains pour la sociabilité, la communication, etc. Donc pourquoi on ne protégerait pas aussi ces intérêts des animaux dans une déclaration des droits, par exemple, de manière analogue à ce qu'on a fait avec les êtres humains?
On va peut-être y arriver par la révolution écologique, puisque certains philosophes sont en train de revendiquer des droits d'écosystème. Or, l'animal fait partie de l'écosystème, donc peut-être ce sera la porte d'entrée de la réflexion qui doit nous suivre dans les séismes de la planète que nous vivons actuellement. Peut-être un dernier point que j'aimerais soulever avec vous, Nicolas Tavallion, c'est Donna Haraway, parce que vous y faites référence et je pense que c'est une manière de lire aussi votre ouvrage. Elle revendique une coévolution quand on est au contact des animaux et notamment de l'animal domestique. Il y a quand même une sorte de boucle rétroactive communicationnelle entre l'homme et l'animal domestique qui les font grandir, si on veut utiliser un petit peu de psychanalyse, l'un et l'autre en tant qu'individu singulier et qui fait une sorte de, on va dire, d'évolution d'histoire aussi, biographique, parce que vous parlez beaucoup de l'effet de Totor dans la famille et sur vous. Et vous qui avez un effet, tous les membres de la famille, sur Totor. Donc c'est une vie biographique familiale. D'ailleurs, à un moment donné, on peut dire que votre famille est devenue famille plus un, qui est Totor, voire inclus dans la famille, comme un membre, hein.
Oui, d'ailleurs, je parle plutôt de tribu que de famille pour éviter minimiser les connotations de consanguinité. J'ai une tribu multi-espèces, composée d'êtres humains, de chats et de chiens. Et oui, j'estime que c'est un membre à part entière. Mes filles sont d'accord, elles font semblant de se vexer de temps en temps, mais tout le monde considère ces animaux comme des partenaires à part entière de la vie familiale. Ils sont là au repas, ils sont là quand on s'engueule, ils sont là quand on dort, quand on se réveille. Ils ont leur manière de nous donner ce qu'ils sont capables de donner, de l'amour, de l'humour. Ils sont parfois très drôles. On peut se demander si c'est volontaire, mais c'est une autre question. Et donc oui, j'ai une famille, une tribu multi-espèces. Maintenant, sur l'avenir je me rappelle plus pardon, j'ai perdu le fil sur le début de la question. Hein, j'ai rebondi sur la tribu.
La coévolution.
Oui, la coévolution. Alors ça, c'est une autre de mes découvertes à mon humble échelle en lisant et en réfléchissant sur mes rapports avec ce chien. C'est de découvrir d'un peu plus près ce que c'était que l'histoire de la domestication et notamment l'histoire de la domestication des loups. Donc des chiens d'aujourd'hui, sachant que les loups sont le premier animal domestique dont on ait gardé la trace dans l'histoire de l'humanité. Moi, j'ai toujours pensé que la domestication, ça se passait comme ça. Des êtres humains voient un animal intéressant, partent en chasse, le capturent et puis le dressent un peu pour le rendre vivable, trouvent un partenaire sexuel pour cet animal et choisissent les petits, génération en génération, pour obtenir des animaux plus doux, plus productifs, plus travailleurs, etc. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça avec le loup. Les paléo-anthropologues soutiennent plutôt l'hypothèse que ce sont des loups qui se sont les premiers approchés des campements humains. Des loups renégats, probablement, qui, par exemple, des loups anarchistes qui étaient pas contents dans leur meute, qui se sont fait un peu laisser de côté et qui avaient besoin de trouver des moyens de subsistance plus faciles puisqu'ils ne pouvaient pas chasser en meute. Et il restait les reliefs des repas au bord des campements humains. Et donc l'hypothèse, c'est qu'on appelle ça des loups proto-domestiquants qui se sont presque auto-domestiqués eux-mêmes, qui ont fait la moitié du chemin de leur propre chef, qui ont ensuite été accueillis par les êtres humains, qui les ont petit à petit domestiqués, comme on l'entend, élevés, croisés, organisés leur reproduction pour donner lieu à la variété des chiens qu'on connaît aujourd'hui. C'est donc pas une histoire, cette histoire de la domestication du loup par l'homme n'est pas une histoire de domestication du loup par l'homme. C'est une histoire de domestication de l'homme par le loup dans la même mesure. Et une histoire de coévolution, puisque la présence de l'animal dans la vie humaine a commencé à modifier les possibilités de cette vie humaine. Ils pouvaient chasser différemment, ils pouvaient faire garder leur campement différemment. Les chiens ont contribué à l'essor de l'agriculture et donc à la sédentarisation et donc à l'auto-domestication humaine. On est nous-mêmes des animaux domestiques, et en partie grâce au premier loup. Donc je trouve que ça... là encore, désimplifie et complexifie le tableau en le rendant plus riche et mille fois plus intéressant.
D'ailleurs, cette interaction qui vient de l'animal vers l'homme, c'est peut-être la conclusion de votre ouvrage avec la référence à Lévinas et cette histoire assez singulière qui mérite d'être soulevée parce que je pense que le public ne la connaît pas très bien, cette histoire. C'est donc un récit tiré des camps de concentration où il y a à un moment donné un chien qui attend les Juifs qui reviennent après les travaux de camp dans leur cabane et qui leur fait la fête. Et c'est là où toute la réflexion de qu'est-ce qu'une humanité est finalement en miroir dans le regard du chien. Parce que les gens du camp se rendent compte que c'est finalement le chien qui leur restitue l'humanité qu'ils ont perdue dans la déshumanisation des camps de concentration. Et c'est quand même une histoire tout à fait philosophiquement singulière, puisque c'est l'animal qui redonne l'humanité à l'homme, déshumanisé par ses propres partenaires humains. Qui peut faire référence un peu au chien, à Argos, qui reconnaît Ulysse, revenu après tout son voyage de l'Odyssée à Ithaque. Personne ne le reconnaît, mais le chien, oui. Donc les animaux sont capables de quelque chose qui nous donne, et là c'est vraiment de l'éthique et de la philosophie, l'humanitude à l'humanité, que parfois l'humain n'arrive même plus à faire.
Oui, c'est pour ça que Lévinas dit de ce chien que c'est le dernier Kantien d'Allemagne, parce que c'est le seul qui respecte l'être humain en tant qu'être humain, indépendamment des détails biographiques de sa vie, sa religion, sa couleur, sa bonne ou mauvaise apparence. Les prisonniers avaient généralement une sale gueule, le chien n'en avait rien à faire. Il leur sautait dessus pour leur faire la fête et leur lécher le museau, comme il aurait fait avec un aristocrate. Donc il y a cette faculté. En écoutant votre question, je me disais, mais il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des chiens. Alors, il y a plein d'explications, mais je me demande, et les punks, il y a d'autres figures humaines connues pour leur lien aux chiens, c'est des punks à chiens. Dans les deux cas, on a affaire à des gens qui sont relativement en marge de la société mainstream. Les personnes âgées, parce qu'elles sont à la retraite et qu'elles ne sont pas forcément bien traitées dans nos sociétés productivistes. Les punks à chiens, parce qu'ils sont sans domicile fixe, sans travail, qui sont un peu errants, généralement mal vus. Ces gens-là choisissent bien souvent de s'accompagner avec de chiens qui leur... qui les confirment, peut-être à la manière de Lévinas, dans leur propre valeur d'être humain, ou peut-être même pas d'être humain, mais d'animal aimable qui mérite qu'on lui fasse la fête quand on le retrouve. C'est peut-être moins qu'ancien que ça, c'est peut-être pas une question d'humanité, mais juste de lien entre mammifères. Voilà, moi je pense qu'on devrait, ça sera peut-être la prochaine étape de mes réflexions, mais permettre aux animaux de nous renvoyer le boomerang quand on parle de nos rapports éthiques à eux et de nous poser la question suivante. À quoi ressemblerait une éthique pour être humain qui prendrait vraiment en compte le fait que nous ne sommes finalement que des mammifères? On vit aujourd'hui le jour le plus chaud de l'année, paraît-il, un jour de canicule. Probablement que si on construisait une déclaration des droits de l'être humain en tant que mammifère, il aurait le droit de faire la sieste quand il fait plus de 35 degrés et il aurait le droit d'arrêter de travailler pour aller se mettre à l'ombre. Donc je pense qu'on a des choses à apprendre et même politiquement potentiellement disruptives si on se voyait un peu plus nous-mêmes comme des chiens et qu'on se demandait en tant que mammifère quelles sont mes revendications légitimes en ce moment. Et là, quand il fait très chaud, je pense que tous les mammifères ont une revendication légitime à aller se cacher à l'ombre.
Alors, appel à notre lectorat, cachez-vous à l'ombre et lisez, bien sûr, au public du Radio Lité Actif et de Radio Cité Genève. Je ne peux que revendiquer et saluer cet ouvrage, Lisez, lisez local. Nicolas Tavaglione est genevois, est suisse et l'écrit savoureusement bien sur le rapport de l'homme et l'animal dans Soi-même comme un chien aux éditions La Veilleuse 2024. Mais ce n'est pas le premier ouvrage. Il a la plume prolixe, on pourrait dire ça comme ça, puisqu'il en a écrit bien d'autres qui ont parfois des veines philosophiques. Mais pas toujours. Alors, plutôt philosophique, Guerre juste et prohibition du meurtre en 2005, un essai, Gare aux gorilles, référence à une certaine chanson, plaidoyer pour l'état de droit 2010. Maintenant, soi-même comme un chien, il y a eu le problème du dilemme du soldat. Vous creusez votre sillon littéraire en alliant la philosophie. Est-ce que vous avez déjà d'autres idées?
Ben non, je suis précisément en train de réfléchir à ce que je vais faire pour la suite. Le chien m'a permis de sortir de mes habitudes universitaires. Donc c'est mon premier livre sans note de bas de page, j'en suis très fier. Et il faut que je trouve la suite, mais je pense que j'ai envie de continuer à réfléchir à notre statut de mammifère et voir sous quelle forme, si possible pas trop austère. Mais voilà, dans Soi-même comme un chien, je parle beaucoup du chien et je pense qu'il faut qu'on parle de soi-même. Comme un mammifère et voir ce que ça peut donner comme conclusion intéressante.
On se réjouit de vous lire. Bon vent, belle plume.
Radio Littéractif.